c'est vraiment l'homme de Dieu, que Dieu a doué, naturel et surnaturel, d'une manière tout à fait exceptionnelle dans l'Ancien Testament. Alors, il nous apporte une œuvre, une richesse, une rigueur. Et puis la génération d'après, bon, il y a la conquête avec Josué, mais disons que Josué était très proche de Moïse. Mais disons, quand on prend les juges, alors, quel contraste! Ce sont des rustres, tout ce qui les organise, et on se demande, mais enfin, que faisait-il de la loi de Moïse? Je crois qu'il n'était pas apte à exploiter, de façon obéissante, j'emploie le terme sans nuance péjorative, et qu'il a fallu de nouveau plusieurs générations et un travail progressif avec les prophètes que Dieu a suscités pour que les valeurs de la loi de Moïse fructifient en Israël même. On pouvait faire une certaine analogie, donc, un petit peu forcée, mais entre les apôtres et Moïse d'un côté, les juges, les Israélites étant des juges, et puis les pères apostoliques et les chrétiens de leur génération de l'autre côté. Monsieur Chapat, je crois que vous voulez dire bref.
Concernant le miracle de la planète en perspective de Satan, beaucoup de gens à l'état, moi j'ai pensé que toutes ces urgences du spirituel, notamment l'Afrique, c'est essentiellement dû à Satan. C'est clair, comme on dit. Mais d'un autre côté, on voit souvent en Suisse, en Israël, en Suisse notamment, des gens comme Nélanque. J'avais un professeur au bout de la Lausanne qui écrit des livres assez étonnants, notamment un qui s'intitule 8 avec la création. Il semblerait que l'homme est amené à être co-créateur. Moi, c'était la vision de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu et on pourrait discuter. Mais c'est intéressant parce qu'il a eu un processus de réflexion. Et ça l'a amené à discuter avec le Philippot, qui est le moyen du premier ordre. Et il a écrit un livre qui est vraiment étonnant. Il est un peu surprenant parce que l'individu connaît le livre technicien.
Alors, pourquoi premier livre technicien. Il vaut, qui est aumônier de l'école polytechnique de Lausanne.
Et Jacques Nélan, qui est un type qui a analysé toutes les sociétés depuis moins de 1000 ans avant Jésus-Christ et il a regardé vraiment toute l'évolution de l'humanité. Et à ce propos-là, on peut voir en tant que technicien, beaucoup de matheux ici, les Suisses notamment, au niveau exponentiel, on remarque vraiment dans une perspective eschatologique une vitesse maintenant qui s'accroît. Qui va avec l'infini, on sait que Dieu est d'amour infini, on pourrait faire un parallélisme avec cette lutte en avant de technique. Et moi, au niveau eschatologique, je relèverais 5 ou 6 points qui pourraient être intéressants, notamment le problème anthropologique, parce que c'est une introduction à l'anthropie, ce que nous donne un erreur. Et il parle vraiment du problème de l'humanité, parce qu'on consomme beaucoup plus d'énergie que ce que la Terre produit. Ça c'est un point. Il y a aussi une fuite, il y a un problème démographique. En 2000, c'est 8 millions. La Terre peut pas nourrir 8 milliards en 2020.
Et il y a un million,
mais l'évolution, ça se baisse. La pollution, on est en train de détruire la Terre. Au niveau de la technique, on a parlé d'informatique pour analyser la vie hier. Il y a énormément de techniciens, mais surtout dans des gens qui ont des filles, que vous avez chaque fois. Il y a énormément de gens qui font la pratique et moi je vais m'en danger parce qu'ils passent leur journée sur les ordinateurs et ils s'écartent d'un message, ils s'écartent de la réalité. Je vais m'en danger, ils pourraient peut-être venir de Satan de.
Et moi j'ai l'impression que ces courants que vous évoquez, ces travaux, correspondent bien à ce que certaines prophéties peuvent nous laisser attendre. Mon impression, c'est que nous sommes dans une phase de foisonnement et je dirais de constitution du terreau qui pourrait servir à une puissante pensée de type antichrétien, antichristique, antichrétien. Il me semble qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une pensée très forte qui se dégage. La pensée antichrétienne la plus forte que je connaisse date du 19e siècle, à mon avis, c'est celle de Hegel. Mais je dirais que ce foisonnement que vous évoquez, la recherche, les gens sont insatisfaits, utilisent les tendances qui se font jour dans les diverses sciences pour proposer des brins de synthèse ici et là, sont plus ou moins floues ou vagues, tout ça pourrait constituer le terreau d'une synthèse qui n'est pas encore faite, mais qui pourrait être d'une grande virulence antichrétienne. Voilà, c'est comme ça, après, brièvement dit, un peu l'impression que j'ai. Monsieur Brecht, je crois que vous aviez...
Non, mais je reviens un peu en arrière, peut-être. C'est le problème de la tradition. Dans la transmission, dans le développement, il y a là un problème aussi, parce que... Quelle est la part de la tradition dans le développement?
Je pense qu'il va falloir, alors là, oui, vous avez vu qu'il y a des têtes de chapitre qui appliquent cela. Hein.
Le président de Berthe, qui a engendré tout ça, en fait, tout ça, c'est la révolution industrielle qui a été due à la révolution.
C'est ça, oui.
Toujours
l'histoire de l'œuf et de la poule, l'effet des révolutions industrielles est très spectaculaire autour de nous, mais qu'est-ce qui a causé ces révolutions industrielles? Est-ce que c'est dans le domaine culturel, religieux, que se trouverait l'élément moteur premier ou non? Il y a de tels enchevêtrements dans ces réseaux de causalité que c'est très difficile de se prononcer.
Pour vous juste un détail, maintenant il y a plus d'intéressance, on apprend plus qu'on voit l'humanité en un carbone en 2000 ans, dans l'Antiquité. C'est génétique, génétique.
C'est pas trop génétique. Oui, alors ce genre de choses, je pense, est utile pour nous frapper, comme quand on dit qu'il y a autant de savants vivants sur la Terre aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu quand on totalise tous les effectifs, toutes les générations avant. Bon, c'est utile, mais évidemment, c'est un certain type de connaissances qu'on engrange ainsi, et quels seront les étalons de mesure, plus, et comment mesurer l'information et les diverses catégories de l'information. Monsieur Rimbaud ?
Oui, vous avez parlé des apôtres qui vérifiaient des mets surnaturels pour l'application.
Oui.
Et je me suis demandé comment nous pouvons concilier cela et le texte de Romain qui nous dit qu'on doit croire jusqu'à la ceinture parfaite de Jésus. Est-ce que ça nous contient, est-ce que notre vie est réelle d'abord? Et si oui, est-ce que ça nous contiendrait que les actions matérielles n'aient pas une compréhension tout à fait profonde de la théologie?
Alors, ma première réponse, c'est qu'à coup sûr, cette croissance jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ, pour moi, c'est surtout Éphésiens 4 qui serait le texte clé à ce propos, que cette croissance inclut, je dirais, la maturation théologique, tout à fait, et c'est dans ce texte, celui auquel moi je pense, il est donc question là des ministères que Dieu, que le Christ glorifié, donne à son Église, à commencer par celui des apôtres, d'ailleurs, et il est question ensuite de cette croissance en termes de maturité doctrinale pour que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, trompés par l'astuce des hommes qui sont si habiles à nous berner avec leur grande théologie et autres critiques. Donc c'est vraiment très proche du sujet même que nous traitons, celui d'une maturation théologique. Donc, la dernière partie de votre intervention, je réponds très fermement, la croissance à laquelle nous sommes appelés, c'est bien aussi une croissance théologique, pas exclusivement, mais aussi une croissance théologique. Mais deuxième élément de ma réponse, c'est que je crois que c'est précisément cela qui est une tâche collective. Chacun à son échelle, ça fait à mûrir, mais nous sommes solidaires les uns des autres, et cette croissance implique le labeur d'interprétation et d'assimilation qui se déroule pendant toute l'histoire de l'Église. et dont nous sommes les bénéficiaires avant d'y contribuer pour notre partie, c'est-à-dire ajoute d'autres générations à la nôtre. C'est un labeur collectif et cumulatif, comme j'ai dit. Et la différence avec les apôtres, c'est qu'ils sont en tant qu'apôtres du côté du don, et non pas de l'assimilation du don. Ils sont du côté du Christ qui donne. Ils constituent avec lui la fondation, ce qui est une autre métaphore pour l'aspect de don une fois pour toutes. L'Église s'édifie, étage après étage, ça ce sont les générations successives, c'est l'assimilation, le labeur de la théologie, mais sur la fondation, posée une fois pour toutes, des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Événement une fois pour toutes, Jésus-Christ, mais Jésus-Christ avec ses apôtres, faisant en quelque sorte fondation avec lui. Il les a formés, leur donne sa parole, ils définissent une fois pour toutes ce qui est la vérité, le donné. Et puis ensuite alors, vient l'assimilation.
Si tu peux le faire.
Oui, oui, je vous en prie. Oui.
Si on considère justement qu'ils sont l'objet d'un don particulier de l'esprit, qui sont revêtus d'un don particulier de l'esprit, est-ce qu'il perd pas leur valeur d'exemple pour nous en tant qu'êtres humains comme nous? Est-ce que c'est pas un peu décourageant pour nous? Voir les Moïse, qui était l'ancienne alliance avec l'homme, souvent on dit dans les pays, pourtant c'est un homme comme nous, mais non alors.
Bien, si lui il était un homme comme nous, évidemment le don qu'il a reçu est plus large à divers égards, au point, à ce dont nous avons parlé, que celui que nous avons reçu. Là, je crois qu'il faut effectivement le reconnaître. Oui, ça crée une distance. Je ne suis pas l'apôtre Paul, ça, j'en suis bien convaincu, mais ce n'est pas de, dans mon effort théologique, j'essaie de ne pas me prendre pour l'apôtre Paul. Donc, effectivement, ça fait une différence, ça reste c'est décourageant. Je crois que si nous n'avions pas l'apôtre Paul, là, nous pourrions nous décourager. Parce que nous barboterions dans une mare difficile à clarifier. C'est cette perfection du donné qui nous permet d'avancer dans l'assimilation. Ça, c'est donc un premier aspect. Deuxième aspect, je crois que M. Brecht a envie de le dire, c'est qu'évidemment, l'apôtre, un avec le Christ, dans le don qui est fait à l'Église de tous les temps, est en même temps aussi un membre de l'Église. À cet égard, on peut dire qu'il est à la charnière. En tant qu'apôtre, dans ce ministère unique, non répétable, il n'a pas été répété dans l'Église d'apôtre fondateur, il est du côté du Christ. Mais il est en même temps aussi un homme comme nous, qui reçoit pour son propre compte, et qui là d'ailleurs est infaillible, en dehors de son enseignement officiel. Et de ce point de vue-là, il peut être considéré comme un exemple. Et puis en plus encore, ce qui complique le tableau, hein, je reconnais que après avoir tracé les grandes lignes, ça, il faut toujours un peu de nuancer. Il faut dire que les ministères qui sont donnés dans l'Église à ces chrétiens qui ne bénéficient pas de l'inspiration plénière, ces ministères ont quand même une certaine similitude avec le ministère de l'apôtre. Le Saint-Esprit nous accorde à nous aussi des aides surnaturelles en ce qui concerne la compréhension des Écritures, son illumination et le don de l'expliquer, les dons de docteur dans l'Église, etc. Tout cela est aussi du Saint-Esprit. Alors ce n'est pas au même niveau, ce n'est pas cette plénitude miraculeuse qui fait que l'Écriture demeure la seule autorité souveraine. Mais ce n'est pas rien, pour autant. Et il y a une similitude. Donc, dans ce sens, l'idée de succession apostolique n'est pas dépourvue de toute valeur, même si elle est dangereuse à manier. Vous voyez ? Madame,
les murs, toutes les briques sont sans charge, la meilleure qui sont en bas, les briques sont
en bas. Oui, par une image qui peut nous être utile. Monsieur Brecht parle de briques, bon, Jésus parlait de pierre.
C'est une
Alexa,
y aura-t-il
encore
une fois sur la terre? Je crois que c'est vraiment l'ivraie. C'est le rôle de l'ivraie. Ça rattache, me semble-t-il, à l'annonce de l'apostasie dans 2 Thessaloniciens 2, le succès de cette entreprise anti-christique, anti-chrétienne, qui est en cause. Mais, n'empêche, il y en aura qui persévéreront jusqu'à la fin, et même s'ils constituent un petit troupeau. Et pour eux, je pense que l'approfondissement de leur foi bénéficiera du labeur de toutes les générations antérieures. Je pense qu'il vaudrait mieux, étant donné l'heure qu'à Thaïs, que nous mettions un point final à cette. Vous allez voir, mais quelques remarques préalables, on l'a fait ici, sans être très précis. De toute façon, je ne vais pas remettre tant bien, mais c'est nécessaire, une orientation évidente de l'éducation. Alors, je ne vais pas discuter très longuement sur la méthode historique complète. La première remarque, le contexte principal de l'histoire de la théologie, c'est l'histoire de l'Église. De même, l'histoire de la philo, l'histoire des idées, a pour contexte l'histoire tout court. Des sociétés. Et sans doute, est-ce un trait caractéristique des sociétés récentes de l'histoire de la chose, de tenir compte davantage du contexte social, des mutations de la sensibilité, par exemple, le concept d'un. L'art, musical, culturel, etc. De même, je crois que nous pouvons dire que l'histoire de la théologie ne se comprend bien que comme l'aspect de l'histoire de l'Église, dans toutes les dimensions de son existence. Nous n'allons pas assister beaucoup sur les attaches communautaires de ces diverses pensées théologiques que nous allons être bien mentionnées, mais il ne faut pas oublier qu'elles ont été importantes, qu'elles ont joué un grand rôle dans le façonnement des diverses théologies. Le phénomène du monachisme, par exemple, où l'Orient a été décisif. Et il n'y a pas de différence entre l'Orient et l'Occident. Le rôle de l'ordre romain, très important aussi, de l'idée du ministère a été façonné selon la conception proprement romaine de l'ordre tantôt. Voilà. Et ça, c'est un exemple au passage de ces interférences entre les. Social et ecclésiastique, la théologie, on en aura. L'histoire de la théologie, toutefois aussi, l'histoire de la philosophie. En fait, pendant longtemps, on a guère distingué entre les deux. La distinction même de la philosophie et de la théologie est une conquête relativement récente. Fin du Moyen-Âge. Et pour Saint-Augustin, par exemple, philosophie et théologie, c'est une sagesse. Pas une sagesse prétendue que les philosophes proposent, il y a la sagesse révélée, la sagesse que l'on tire de l'étude des Écritures. Mais entre les deux disciplines, philosophie et théologie, on ne. Ne distingue pas très nettement. les interférences sont inévitables parce qu'une bonne série de questions sont communes. Les questions du sens ultime, les questions qui se rapportent aux procédures de la connaissance, les questions qui concernent l'absolu, son rapport avec le monde, ce sont des questions que les philosophes s'efforcent de traiter et qui intéressent aussi à leur manière les théologiens. On constate a posteriori que la théologie a souvent été à la remorque de la philosophie, en tout cas dans les temps modernes. Les théologiens, cherchant des outils et des matériaux, ne se sont en général pas contentés du donné biblique et du labeur de leurs prédécesseurs théologiens, mais ils ont aussi recouru à ce que leur proposaient les philosophes. Parfois, c'est jusqu'à la caricature. J'ai vraiment l'impression qu'ils choisissent un philosophe, un courant philosophique, en considérant que c'est leur philosophe, et qu'il va les aider à décrypter la Bible de manière correcte, enfin, parce qu'il est le philosophe. Jusqu'en notre siècle, toutes ces attitudes ont été enregistrées. Un autre élément qui est inéluctable, la contamination, la perfécondation, comme vous voulez, de la philosophie et de la théologie, c'est que la théologie ne se borne pas à une appropriation du donné biblique à l'usage interne, simplement pour déterminer de manière la plus exacte ce que veulent dire les textes bibliques en eux-mêmes, mais forcément ce sont des raisons de témoignage à rendre et de réponse à des questions que nul ne peut ignorer, certainement tourner aussi vers le monde contemporain, dont les questions sont particulièrement retravaillées, thématisées et parfois même suscitées par les philosophes. Si la théologie peut remplir entièrement son mandat, elle se rapporte aussi aux témoignages. Elle veut faire valoir l'actualité, la pertinence de la parole de Dieu dans le temps où vivent les théologiens, et qu'il leur fasse dans l'Église, puisqu'ils font un service, ils rendent un service pour l'Église, et du coup, ils doivent se colter avec la philosophie de leur temps. Ce n'est pas évitable, sauf à s'enfermer dans un ghetto tour d'ivoire. Donc, l'histoire de la philosophie et l'histoire de la théologie s'entremêlent, en tout cas se côtoient. Voilà un élément que l'on peut aussi mentionner, qui doit nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de la théologie.
Oui, monsieur Pandit. Est-ce que vous pouvez donner un exemple typique de théologie à la remorque de la théologie ? Un cas ?
Alors, j'ai dit jusqu'au XXe siècle, il y a le cas au XXe siècle de théologien à la remorque d'un philosophe, parce qu'il est considéré comme le philosophe, ce serait Rudolf Bultmann, se référant à celui qui a été pendant quelque temps son collègue à l'université de Marbourg, Martin Heidegger. Pour Bultmann et les Bultmanniens, c'est Heidegger qui est le philosophe au XXe siècle. Et on atteint même à certains moments les frontières du ridicule. Le grand argument des post-Bultmanniens, comme on les a appelés, c'est-à-dire des disciples de Bultmann, la génération d'après la sienne, c'est qu'il fallait suivre Heidegger dans le virage qu'il a pris, terme quasiment technique pour l'étude de Heidegger, qui est le virage. Bultmann s'est attaché à Heidegger 1, jeune Heidegger, du livre L'être le temps, mais Heidegger a pris un virage, et les post-Bultmanniens, jeunes Bultmanniens, ont dit alors il faut suivre Heidegger. Et leur version, au point, je crois que j'ai lu ça, mais je ne pourrais plus vous trouver la référence, au point que dans un colloque, je crois, Heidegger a dit à ses théologiens, écoutez, votre boulot c'est quand même de me tourner vers la Bible. C'est me semble-t-il une illustration assez forte. Mais ce n'est pas la seule illustration, puisque vous m'avez dit illustration avec qui mais nous allons en parler. Mais au XIIIe siècle, l'orthodoxie s'est trouvée cesse de vaciller. À cause d'une vogue aristotélicienne qui menaçait d'entraîner les intellectuels, à Paris en particulier. Aristote venait d'être redécouvert, parce que toute la première partie du Moyen-Âge n'avait eu de lui qu'une partie extrêmement limitée de son œuvre, et c'était l'enthousiasme Aristote. C'est lui le philosophe. Et certains en tiraient des conséquences d'un modernisme extrême, mettant en cause l'orthodoxie reçue des pères et de la première partie du Moyen-Âge. Et la signification en son temps de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, c'est qu'il a réussi, lui, une synthèse entre Aristote et la théologie reçue, qui renouvelait celle-ci, mais qui cependant en préservait les lignes principales. Il a réussi à baptiser Aristote, si vous voulez, d'une manière conciliatrice, sans modérer, de telle sorte que les conséquences modernistes extrêmes qu'on pouvait redouter ne se sont pas produites. Mais nous avons eu là un temps où vraiment Aristote paraissait le philosophe. Ouais, plus de 15 siècles après son existence. En ce qui concerne Saint-Augustin, un phénomène un peu semblable s'est produit aussi. Il s'est converti à Milan, vous le savez, et grâce au contact qu'il avait avec l'entourage de l'archevêque de Milan, Saint-Ambroise, qui était entouré de jeunes intellectuels, en particulier d'un prêtre qui croit, comme dans cette erreur, ça fait Saint-Fricius, et c'est plus que l'archevêque lui-même qui est très occupé, c'est un ancien préfet d'Empire d'ailleurs, c'est plutôt un homme au gouvernement, qui est un penseur, mais pas un philosophe vraiment, mais il y avait autour de lui des jeunes intellectuels, Saint-Fricius, qui étaient des néoplatoniciens à tout craint. Pour eux, le néoplatonisme, illustré par Plotin, aussi plus d'un siècle avant, c'était la philosophie. On ne pouvait pas faire mieux avec la raison. Et saint Augustin s'est converti à la fois, a-t-on dit, au néoplatonisme. Certains ont essayé même de distinguer deux conversions, une conversion au néoplatonisme et une conversion au christianisme. On peut dire, je crois qu'en gros, il s'est converti à la fois à l'un et à l'autre, au néoplatonisme et au christianisme. Parce qu'il était auprès, là, de jeune prêtre qui était persuadé que c'était le philosophe. Voilà, donc quelques illustrations donc, sur ce point. Deuxième considération que je vais avoir, l'histoire de la théologie est appelée à l'interprétation tendue qu'elle est entre vérité éternelle et conditionnement temporel. Je ne vais pas développer maintenant cette considération qui pourrait nous prendre encore longtemps. Nous avons parlé d'interprétation l'an dernier pour un certain nombre d'entre vous. Donc le sujet a déjà été traité, même s'il a été traité en rapport avec la Bible elle-même, plutôt qu'avec les textes de l'histoire de la théologie. Je n'ai pas tout le temps non plus, je vous l'avoue, de travailler ce point comme j'aurais voulu le faire, si j'aurais dû le faire, si j'en faisais un exposé détaillé. Je me borne à souligner que faire de l'histoire de la théologie, ce n'est pas simplement recueillir des documents, les lire, les mettre en place dans un schéma chronologique. Il s'agit d'apprécier aussi, il s'agit de comprendre que signifient les mots, les phrases, les ouvrages considérés globalement de ces grands auteurs que l'on mentionne. La chose n'est pas si facile à faire. Il y a matière à débattre, il y a des problèmes d'interprétation qui se posent, pour lesquels on applique les règles habituelles de l'interprétation dont nous avons parlé l'an dernier, mais tout spécialement mettent en cause la polarité entre la permanence transtemporelle de la vérité transmise une fois pour toutes à la fois, et puis l'expression, l'accentuation, l'orientation même qu'on lui imprime en un temps donné. Le problème est particulièrement aigu pour les catholiques à cause du caractère normatif que gardent les expressions au cours de l'histoire de l'Église qui ont été données à la fois. Pour les protestants en général, le problème paraît moins aigu parce qu'on dit oui, c'était l'expression constitutionnelle, mais nous revenons à l'Écriture pour critiquer cette expression. Et les catholiques, eux, ont un problème assez aigu parce qu'ils affirment que les décrets des conciles, les expressions du débat ex cathedra, c'est-à-dire dans la fonction officielle de docteur universel de tous les chrétiens, sont irréformables. Qu'elles jouissent d'une normativité sont non pas tout à fait du même niveau que celle de l'Écriture, il faut le reconnaître, mais quand même d'une sorte comparable. Alors, oui, mais il faut comprendre, c'était pour répondre à telle hérésie. En fait, ils ne voulaient pas exclure tel autre point. Ils utilisaient les concepts de leur temps. Et le débat continue. C'est sur des points de ce genre que Hans Kuhn, que vous avez entendu mentionner, qui s'était privé de son droit d'enseigner au nom de l'Église catholique, que Hans Kuhn a été très fortement critiqué par Rome au cours de ces 20 dernières années. Hans Kuhn a joué très librement de ce principe. Dans lequel, oui, bien sûr, le dogme a changé, mais je crois qu'il y a une expression temporellement marquée en rapport direct avec une situation historique très particulière. Alors, nous qui venons des siècles après, il nous faut se dépouiller, si vous voulez, de son écorce. La vérité qui était là à viser, et en général, il ne reste pas grand chose, vous savez, enlever l'écorce, c'est très sec, comme un oignon. Hein. Vous enlevez, puis il reste plus que des fleurs à la fin. C'est un grand débat. L'un de ceux qui ont été les plus loin dans l'affirmation du conditionnement temporel, des expressions de la foi, dans des diverses théologies honorées par l'Église, c'est le grand jésuite Karl Rahner. Un homme en fait beaucoup plus important que Kuhn. Mais beaucoup plus subtil aussi. Et alors, quand Kuhn s'est fait condamner à Rome, mais il a cherché du soutien, et voilà que Rahner lui a tapé dessus aussi. Et alors, Kuhn a fait les bras aussi en disant, mais c'est de Rahner que j'ai appris tout ce que je vous ai dit. C'est Rahner qui m'a montré comment il fallait, en quelque sorte, dépouiller le contenu de la foi de ce revêtement temporel qui est si important, qui a déterminé jusqu'à un point si considérable des formulations. Mais alors, non, je ne vais pas vous dire ça. Le problème est délicat. Il n'est pas si facile à traiter, et il n'est pas facile à traiter pour nous non plus. Je dis que nous n'avons pas à nous cacher que le problème, il se pose aussi quand même pour nous. Nous faisons référence à des prédécesseurs, à des pères dans la foi. Et il nous faut bien quand même affronter la difficulté du sens exact de la portée aujourd'hui, d'une façon de distinguer ce que leurs textes ont signifié en leur temps et puis ce qu'ils signifient pour nous par-delà les siècles. Le problème est réellement posé. Une considération que je mentionne, qui vous sera, semble-t-il. On ne peut pas échapper à la question. Très intéressante. Et la suivante. Certains auteurs ont fait valoir que tout discours est une réponse à une question implicite. Pourquoi écrit-on? Pourquoi prêche-t-on? Pourquoi? Toujours de manière plus ou moins consciente, on répond à une question qui est dans l'habitant, qui est dans le propre esprit de celui qui parle ou qui écrit. Et nous l'avons bien constaté hier avec l'un des films de prédication que nous avons entendu, qui répondait à ces questions qui circulent, qui nous habitent aussi nous-mêmes, je crois qu'on peut dire, jusqu'à un certain point commun, tout discours est une réponse. Et si on ne discerne pas quelle question à qui répond, on risque de manquer, au moins pour une part, sa signification. Alors, en comptant de toutes ces choses, peut aisément faire glisser vers le relativisme, comme on voit que beaucoup de chrétiens catholiques de notre temps. On affirme toujours que c'est la même vérité éternelle, il n'en reste presque plus rien. En pratique, ce sera chaque fois le conditionnement temporel qu'on mettra en avant. Et je crois qu'il nous faut la garder, mais pas simplement par réflexe de peur conservatrice, par crispation, s'attachant aux réformateurs. Je crois qu'il nous faut discerner ce qui peut servir de barrière contre le relativisme. Je ne veux pas parler simplement de garde-fous, c'est beaucoup plus radical et profond que cela. C'est essentiellement l'unité de l'histoire humaine, sous la conduite, sous le gouvernement du Dieu unique. C'est ce plan de Dieu dont je parlais tout à l'heure qui rassemble en un tout les instants successifs, qui empêchent leur émiettement, empêchent que chaque époque se replie sur elle-même comme si elle avait son sens en elle-même. Il y a une seule histoire de l'humanité. Il y a des constantes du fait que c'est le même Dieu qui tient sa création et qui assure l'identité d'une existence humaine, la condition humaine, malgré les modifications technologiques, malgré tous les changements que l'histoire apporte, la condition humaine demeure la même dans ses dispositions fondamentales. C'est notre foi au Dieu unique et à sa création et à sa providence qui nous permet de dire cela, je crois, et qui fait que nous ne passerons pas dans le relativisme de tant de nos contemporains. Je pense qu'il y a des données que nous pouvons chercher chez théoriciens des sciences humaines, par exemple, qui viennent à l'appui sur des constantes interculturelles, transculturelles, que nous ne manquons pas de quelques munitions confirmatrices, mais foncièrement, c'est, je crois, ce qui peut, pour nous, procéder de la vision de l'histoire que l'écriture nous apprend. Bon, je vois que vous réfléchissez, mais bon, ces paroles ici vous font réfléchir, mais je sens qu'il faut juste un petit peu plus aussi. Un des théoriciens de l'interprétation les plus fameux de philosophie récente, Allemand Gadamer, parle de la fusion des horizons. En disant, on a compris quand même, on réussit à faire coïncider son propre horizon avec l'horizon de l'auteur d'un texte. Il faut qu'il y ait une fusion des horizons. Je suis porté à répondre, l'horizon, c'est le même, au bout du compte. L'horizon, c'est le même, c'est l'horizon de l'histoire que le Seigneur rassemble, qui est le déroulement de son plan unique. C'est ce qui assure l'unité. Si entre l'horizon de l'auteur et mon horizon, il y a étrangeté radicale, si ce n'est pas le même horizon, comment les faire se rejoindre? Comment les fondre ensemble? C'est un magma qui fait tort à l'un et à l'autre, s'ils sont profondément étrangers l'un à l'autre. Et s'ils ne le sont pas, alors comment parler de deux horizons? Il n'y a pas là de point d'appui ferme pour la réflexion. C'est quand nous obéissons à la vision que je crois la Bible nous inculque, qu'un seul horizon qui est celui de l'œuvre de Dieu qui se déploie selon son plan, qu'il devient possible de franchir les distances. Autre façon de le dire, ça revient au même exactement. Vous savez, parfois des gens qui commentaient Abraham dans son nom, tout ce qui est dit à Abraham, qui aussi sa tristesse, c'est dans son monde, et puis notre monde, il est tout autre. Notre monde est tout autre, alors comment faire pour le rejoindre? Ce qui est dit dans son monde a une autre sonorité que ce qui est dit dans le nôtre. Si je reprends ses paroles, le problème est insoluble. Si vraiment il s'agit de deux mondes, il est insoluble. Parce qu'effectivement, toute parole dite prend son sens de sa relation avec son monde, c'est vrai. En tout cas, je ne pense pas pouvoir le nier. Mais je crois que nous pouvons vous attaquer en disant, mais Abraham et Augustin, c'est le même monde que nous. C'est le monde de Dieu. C'est le monde du Créateur. Abraham est avec toi, Augustin est avec toi, mais dans le même monde. Vous voyez le sens de Marie-Poste qui me semble être notre protection contre le relativisme qui menace lorsqu'on met l'accent sur le conditionnement temporel. Et je ne veux pas nier pour autant le conditionnement temporel. Voilà quelques mots pour commenter ce deuxième point. Monsieur Chabat, vous voulez intervenir? On suggère que pour les facilités d'enregistrement, les questions soient plutôt comme ça a été à la fin de la première partie, à la fin de la session. Mais enfin, je ne veux pas empêcher une question qui porte précisément sur la compréhension de ce que vient de dire de surgir.
Là, ça pourrait éventuellement apporter un petit point technique, c'est-à-dire que Mathias Fleuret, avec les projets techniques qu'on puisse entendre, la voix d'Abraham, on ne peut pas trouver un
professeur. La voix d'Abraham,
la voix de...
Vous n'entendez pas très bien la voix de M. Chapat, mais... Bon, alors là, je ne suis pas au courant, je ne fais pas de commentaire, et je passe au point suivant, qui est une schématisation pour vous aider à mettre en place ensuite plus aisément les données historiques que nous considérerons. Comment segmenter les... Enfin, est-ce que 19 siècles, enfin, pas fait, que nous devons considérer dans notre survol. Il faut toujours tronçonner, classer, etc. pour y voir clair, tout ce exposé oblige à des divisions, même si certaines peuvent paraître relativement arbitraires. Il faut trouver des mots qui rassemblent les significations. Cela aide à se repérer. Je vous propose un schéma qui partage en six périodes. Vous ne prétendez pas qu'il s'agisse des six églises de l'Apocalypse avant la septième. Non, pas du tout. En six périodes, l'histoire de la théologie. Pour une part, je m'appuie sur François Boniface. Vous avez vu dans la bibliographie que j'indique à la dernière page de mon petit schéma, que je mentionne les deux volumes de l'histoire des hommes de l'Église chrétienne de François Boniface. C'est un vieil ouvrage, il a maintenant plus d'un siècle, et il a été publié à titre posthume. Donc vraiment, c'est un enseignement qui commence à dater. Et pourtant, je pense que l'ouvrage est toujours utile aujourd'hui. Il s'est intelligemment conçu. François Boniface était professeur de l'histoire de l'histoire des hommes, à la faculté de Montauban, qui est devenue la faculté de Montpellier par la suite, la faculté de théologie réformée en France. Et, bon, marquant l'antériorité, les Goménas participent, vers le dire, sont des choses dites d'abord, et il y a tout un semestre que l'on consacre dans l'économie des cours de théologie systématique ici, aux prolégomènes, aux matières introductives. Je l'ai enseigné longtemps, je ne l'enseigne plus en ce moment, bien que je serve encore d'un paquet d'études qui est depuis longtemps épuisé, que j'avais écrit pour enseigner ce cours. Et l'un des éléments qu'on y traite de façon tout à fait traditionnelle, c'est l'histoire de la théologie systématique, l'histoire des dogmes et de leur conception et commentaire. Comme dans les années passées, ce sont des fragments du cours de Prolégomène, qu'on vous a aussi proposé l'année dernière, c'était le sujet de l'herméneutique, de l'interprétation de la Bible, qui entre dans le même cadre. Nous avons pensé que pour cette année, je pourrais vous donner ce raccourci histoire de la foi chrétienne telle que l'ont professé les générations venues avant la nôtre. C'est ce coup d'œil qui s'en fait et qui conviendrait. Dans le petit dépliant, nous avons mis le mot de foi plutôt que celui de dogme, en pensant qu'il effraierait un peu moins. Il est tout à fait légitime, mais il s'agit de la foi au sens objectif, au sens de ce que l'on croit, et non pas de la démarche subjective du sujet humain qui croit. On emploie traditionnellement deux formules latines pour distinguer les deux sens, dit subjectif ou objectif, de mon foi. On dit souvent qu'il y a la fides quoi et la fides quoi. Quoi est, si vous préférez. En fait, on abrège quand on parle ainsi. La formule entière comprend le verbe à la tournure passive, à la voix passive, créditur, pour que la formule soit complète. La fides qua créditur, c'est la foi par laquelle on croit. Il est cru, au sens impersonnel, on croit. Donc c'est la foi au sens subjectif. C'est la foi comme disposition et l'eau du cœur, comme acte d'intériorité, fides quoi. En revanche, fides quoi, quoi et créditur, c'est la foi qui est crue. À la tournure passive, pour sujet, foi, ou son pronom qui a foi pour antécédent, c'est la foi au sens des vérités communiquées par la révélation, portée par la parole de Dieu, auquel nous sommes invités à croire. Le sens objectif de foi est moins fréquent que l'autre. Dans l'Écriture sainte elle-même, qui fait la fidèle quoi est moins souvent en cause dans le mot foi utilisé dans le Nouveau Testament, mais il n'est pas absent du tout. Lorsqu'il s'agit de la foi transmise au sein une fois pour toutes, dans l'épître de Jude, formule extrêmement frappante, il s'agit de la foi au sens objectif, du contenu qu'il nous est possible de croire. Et le verset d'ailleurs structure très bien la vision historique que la Bible veut nous enseigner à ce propos, une fois pour toutes. Et non pas un processus continuel qui continuerait de se prolonger aujourd'hui. Je crois pour ma part que l'analogie de la foi dans Romains 12, pas seul, mais ailleurs, c'est aussi l'analogie de la foi au sens objectif. L'harmonie interne, les proportions, les liens qui font de l'ensemble de la foi au sens objectif un édifice bien coordonné, que nous sommes appelés à respecter quand nous portons la parole, entre autres dans la prophétie ou la prédication dans l'Église. Celui qui prophétise selon l'analogie de la foi, selon les rapports internes, les justes proportions de l'édifice de la foi au sens qu'il est quoi. C'est aussi dans ce sens qu'il est dit qu'il y a une foi, un seul baptême, une des colonnes de l'unité de l'Église. Le mot se rapproche donc, à son sens, on le voit de manière objective, le mot foi, du mot dogme. La nuance que le mot dogme ajouterait serait celle une sanction ecclésiastique plus formelle. Les dogmes, ce sont les vérités de foi que les églises ont enregistrées comme telles, à propos desquelles on s'est réunis, on a promulgué des décisions qui rejetaient l'hérésie, qui affirmaient la vérité de foi reçue par les prophètes et les apôtres. Mais on peut parler aussi de doctrine, l'histoire de la doctrine, l'histoire de la théologie, une réflexion sur la base des vérités de la foi reçue. Ou on peut aussi parler de théologie historique. C'est une expression assez courante aujourd'hui. Vous avez une grande collection, l'édition Beauchesne, par exemple, qui est la collection, une bibliothèque de théologie historique, où les divers ouvrages entrent dans le champ de cette étude de la transmission de la foi au sens objectif et du travail de méditation, de réflexion, de défense et illustration qui a été fait à son propos. L'étude de la théologie historique, de la foi dans sa transmission, les dogmes, etc., comme vous préférez, n'a atteint sa majorité scientifique, pourrait-on dire, que de manière assez récente. Bien sûr, on s'est toujours intéressé à ce qu'avaient dit les anciens. On a répété les formules clés de ceux que l'on tenait pour des autorités. Mais pendant très longtemps, cela s'est fait de manière un peu émiettée, sans effort pour situer, pour obtenir un schéma d'ensemble. Et ce n'est vraiment qu'au XVIe siècle qu'on voit se dégager une discipline qui mériterait de s'appeler l'histoire de la théologie, l'histoire des dogmes, la théologie historique. C'est la controverse qui a été l'aiguillon, comme très souvent, pour les progrès des diverses disciplines. On cite, comme je vous l'indique dans le résumé que j'ai sous les yeux, l'Empurie de Magdebourg. Un certain nombre de théologiens associés à la ville de Magdebourg en Allemagne, dans un dessin polémique pour montrer à quel point l'Église romaine s'était égarée loin de la vérité apostolique, pour montrer que la réforme avait restitué la vérité originelle du christianisme, des théologiens, donc, sous l'impulsion d'un théologien fameux du XVIIe siècle, Matthias Schlasius, qui venait des régions de Yougoslavie d'ailleurs, sous l'impulsion de ce théologien, tout un groupe a travaillé à plusieurs volumes l'histoire de la doctrine chrétienne, qui est d'ordre. Je peux dire que ce fut le travail pionnier. Ces centuries ont été publiées dans la deuxième moitié du XVIe siècle à Bâle, mais on les appelle centuries de Magdebourg parce que les théologiens, la plupart d'entre eux qui y ont collaboré, étaient associés à cette ville. Puis, il y a eu bien sûr des répliques, les catholiques n'ont pas chômé. De leur côté, ont fait progresser eux aussi la recherche scientifique. Quand on se discute, eh bien, on cherche des critères, et il y a des progrès qui se font. Denis Petot a été aussi un auteur important, d'après ce que j'ai lu, je n'ai pas trop lu à lui, hein, je vous rassure, je vous inquiète, mais hélas, tous les éléments de bibliographie que je vous donne, je n'étais capable d'aller les fréquenter de la manière qui lui était souhaitable. Puis un peu plus tard, et là, on commence à se dégager de la controverse. Un point de vue moins partial commence à s'établir avec un piétiste comme Gottfried Arnold, l'un des traits décisifs de l'évolution piétiste. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir. C'était la prise de distance par rapport aux confessions établies, à l'autorité des églises institutions. Le piétisme mettant l'accent sur l'expérience individuelle et intérieure, commence à mettre un bémol, si vous voulez, aux prétentions des institutions et à suggérer que il se pourrait qu'entre luthériens réformés, les disputes ne soient pas aussi graves qu'on l'a suggéré, qu'il y ait peut-être du pour et du contre, des deux côtés, le piétisme libère en quelque sorte, sans que ce soit une rupture complète, mais libère de la tutelle extrêmement lourde que les institutions ecclésiastiques avaient exercée jusqu'au XVIIe siècle. Ce qui permet une histoire un peu moins engagée, militante peut-être, un peu plus sensible aux nuances et aux enchaînements, donc une histoire qui est d'autant plus instructive pour des lecteurs qui eux-mêmes ne veulent pas simplement des munitions pour la bagarre. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle, le point de vue critique en général s'est mis à prévaloir, que la discipline a pris son essor. Son instaure, probablement, pouvons le dater de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il y a eu de très puissantes synthèses. Aujourd'hui, les monographies se prolifèrent. Comme je vous l'ai dit, il y a des collections, des séries de théologie historique qui paraissent chaque année des livres très nombreux qui étudient tel auteur, tel problème, tel... Mais il y a très peu d'ouvrages de vaste synthèse, voire récents. Et ceux que j'ai pu signaler, que j'ai pu mentionner, appartiennent à la sphère catholique, mais je crois que du côté protestant, il n'y a pratiquement rien de récent. Et je me suis enquis auprès de collègues d'autres facultés que je rencontrais. Vous avez connaissance de quelque chose, vous n'avez rien vu? Non, en effet. Il y a une sorte de carence, on a s'attaqué une œuvre d'une telle envergure, alors on accumule des travaux particuliers sur des tas de points précis, et les grandes synthèses demeurent celles qu'il y a plus de 50 ans. Vous vous interrogez, me semble-t-il, avant d'aborder le vif du sujet, aux deux questions classiques, pourquoi et comment. Pourquoi engager dans le travail et dans quelle méthode, en affrontant quelles difficultés. C'est ce que je résume à la première page de mon canevas. La première raison que j'amène pour justifier l'existence même de la discipline de la théologie historique, et donc par voie de conséquence l'inclusion dans le programme de notre université d'été, d'un coup d'œil sur le devenir de la foi comme assimilée intelligemment par les générations successives de l'Église. Et la première raison, c'est qu'il appartient à la nature de la théologie chrétienne d'être historique. La théologie chrétienne réfléchit au contenu de la foi transmise une fois pour toutes. Déjà dans cette expression, je l'ai signalé tout à l'heure, l'histoire est impliquée, transmise une fois pour toutes. La révélation sur laquelle nous penchons, à laquelle nous voulons nous attacher, est une révélation liée à l'événement, et je peux l'approfondir en disant non seulement le don de cette révélation fut un événement, une fois pour toutes, mais ce dont elle nous parle, c'est l'événement par excellence du Dieu intervenu après des siècles de préparation le salut a été accompli une fois pour toutes, caractère historique du salut comme originalité radicale, exclusive du message chrétien, si on le compare au message de toutes les religions, caractère intensément historique de ce qui est une nouvelle avant d'être un programme éthique, rituel, etc. Mais cela ne suffirait peut-être pas à justifier la théologie historique si l'on pouvait imaginer que chaque individu se rend simplement contemporain, franchissant d'un bond tous les siècles qui nous séparent du premier et de notre ère, pour s'approprier ce qui a été donné à ce moment-là. Si l'idée de la contemporanéité que la foi au sens subjectif nous donne avec l'événement de Jésus-Christ, si cette idée-là était affirmée, posée de manière trop rigide, sans nuance, et je pense avec un certain fanatisme, elle impliquerait qu'il n'y aurait pas d'histoire de la théologie qui puisse nous intéresser. Il nous suffirait de bondir d'un coup à l'événement Jésus-Christ avec sa trace biblique, et puis c'est tout. Nous n'aurions pas à nous préoccuper du 3e siècle, du 5e siècle, du 12e siècle après Jésus-Christ. Le fait que la révélation soit un événement, nous parle d'un événement, implique pour nous théologie historique, parce que le temps qui suit est un temps également significatif dans le plan de Dieu. C'est une illusion que de s'imaginer devenir purement et simplement contemporain, nous qui sommes du 20e siècle, et du 20e siècle finit ça, contemporain du Christ au 1er siècle, de ses apôtres. L'assimilation de ce qui a été donné à l'époque est un effort collectif et cumulatif qui se déploie dans le temps. Même si Dieu a mis l'éternité dans notre cœur, par création et la vie éternelle, par la présence de son esprit, nous restons des créatures temporelles, et jusque dans la réalisation de notre potentiel spirituel, nous avons besoin de temps. Nous ne comprenons pas tout d'un coup, nous avons besoin de réfléchir, de lire et de relire et de relire, et l'appropriation de ce qui nous est donné dans la révélation par la parole de Dieu, ce qui est une sorte de définition de la théologie à bien des égards, réclame du temps. Et cela ne se passe pas seulement à l'échelle de l'individu, mais nous sommes membres les uns des autres, et les générations les unes des autres, constituant un seul corps de Jésus-Christ tout au long de l'histoire qui a commencé à la Pentecôte. Et du coup, la théologie est un effort cumulatif. Vous connaissez bien sûr l'image de Pascal comme un seul homme qui apprend. C'est vrai pour toute l'humanité à divers égards, mais c'est spécialement vrai pour l'Église. Un seul homme qui apprend génération après génération, avec un aspect cumulatif du travail. Le travail que nos pères ont fait, nous n'avons pas besoin de le refaire, il nous faut l'assumer. Il ne s'agit pas pour nous de gober sans aucun examen les conclusions auxquelles ils sont parvenus, mais nous n'avons quand même pas à ignorer le travail qu'ils ont fait. Ils ont tout détruché, ils ont validé le terrain, et nous pouvons en profiter. Nous sommes fous de ne pas en profiter. Sous-jacent à ce que je viens de dire, il y a ce que j'appelle la conception biblique du temps. On se rend compte de l'importance de cette conception pour le travail que nous avons à faire. Quand on examine les autres propositions, nécessité immanente, font à l'agence tirer de sens. Ce sont des termes qui vous paraissent peut-être très abstraits, mais vous allez très aisément comprendre. Si le déroulement du temps était simplement l'exécution d'une sorte de programme logique où tout se déroulerait selon les liens d'une nécessité sans aucune possibilité d'autre aiguillage à aucun moment. Si tout était comme une démonstration mathématique qui se déroule jusqu'au CQFD, si tout était entièrement déterminé par une loi immanente de développement interne, alors, on ne voit pas très bien comment l'histoire de la théologie pourrait se développer. On ne voit même pas comment nous pourrions nous exaucer au-dessus de cette grande mécanique, on va dire d'ailleurs plutôt un élan vital, mais ce déroulement entièrement nécessaire. Il y a des systèmes déterministes qui ont conçu ainsi le temps. D'autre part, juste à l'opposé, si nous étions jetés dans un chaos où tout arrive par hasard, sans aucun sens possible à ce moment-là, contingence privée de sens. Là aussi, il ne serait pas question de chercher un dessin d'histoire, il ne serait pas question de réfléchir dans cette espèce de tourbillon de vanité. C'est parce que le temps, au témoignage de l'Écriture, est à la fois le tout lié et pourtant le lieu de la liberté que la théologie historique a vraiment de l'intérêt, et c'est même possible. Ce qui unit les moments successifs du temps dans l'Écriture, et leur succession n'est pas une illusion. On pourrait dire que le summum du déterminisme impliquerait qu'on dise au bout du compte il n'y a qu'une seule logique qui est, et puis la succession des moments, c'est une certaine apparence, une illusion d'optique. Ce qui unit dans la perspective biblique la succession qui est réelle, qui est authentique aux yeux de Dieu, des moments, ce n'est pas une nécessité qui serait en ces moments une logique interne qui ferait qu'ils se déterminent les uns les autres inexorablement, mais c'est le plan de Dieu, c'est le dessein, le conseil, comme l'appellent nos textes, du Dieu souverain et libre. Ce n'est pas une logique interne comme dans le déroulement d'une démonstration mathématique, c'est le projet librement conçu du Dieu qui est le premier et le dernier. Cela veut dire qu'il n'y a pas de hasard ultime, qu'il n'y a pas ce chaos éclatant de tous les côtés qui rend vaine notre réflexion, mais qu'il n'y a pas non plus cette nécessité étouffante du déterminisme. Il y a une détermination de tous les événements par le Dieu qui est au-dessus, et qui, disposant librement de toute chose, fait de cet ensemble un lieu où sa créature, en son image, libre à son image, pourra exercer sa responsabilité. C'est cette vision du temps, fondée quant à son unité et sa diversité interne sur le plan de Dieu, d'un Dieu transcendant, qui est la base d'une réflexion possible sur l'histoire. Et dans ce plan de Dieu, alors, il faut revenir à ce que j'ai déjà introduit tout à l'heure, comme pensée, je crois, importante, l'âge de l'Église a sens, valeur. L'âge qui se situe entre Spark et Pharousie, comme on dit parfois, en côte, entre la première venue de Jésus-Christ et la deuxième venue de Jésus-Christ. Avec le mot Pharousie, donc c'est simplement la transcription en français du terme qui désigne la venue de Jésus-Christ en gloire à la fin du temps présent. Parousia, ça veut dire d'abord présence, tenue. C'est le terme, le seul, mais le terme le plus souvent employé dans le Nouveau Testament, et très souvent, parmi les théologiens, on se contente de le transcrire et de dire donc parousie, en simili français. Donc, entre la première venue à Pentecôte, et puis la deuxième venue, le retour glorieux de Jésus-Christ, se déroule, on peut appeler le temps de l'Église. J'ai mis l'expression allemande dans mon texte, que vous avez sous les yeux, Zwischenzeiten, simplement parce qu'il est fameux. Il a servi de titre de revue au mouvement dont Karl Barth était la figure de proue à la fin des années 20, au début des années 30 de notre ère. Il voulait marquer que notre temps est tout entier déterminé par sa situation entre Pâques et Pharousie, entre les grands temps du dessein de Dieu, que c'est cela qui lui donne sa véritable signification à notre temps. Et c'est pour cela qu'il savait utiliser l'expression pour titre de leur revue. Finalement, ils se sont disputés, la revue a cessé de paraître au début de la décennie 30, 32, je crois, quelque chose comme ça. Mais le titre est demeuré très fameux, alors voilà, je l'ai glissé dans mon petit résumé. L'acte de l'Église n'est pas sans signification. Le père Congar, Yves-Marie-Joseph Congar, qui est assez fameux, je pense que vous savez entendre son nom, dit que c'est le temps de l'agir du donné. C'est la meilleure formule, elle ne paraît pas si mauvaise après tout. Le donné, une fois pour toutes, le donné de la révélation, la parole, l'accomplissement de notre salut, mais une mise en œuvre. Philippe 2, mettez en œuvre votre salut avec un tremblement. Le temps de la mise en œuvre, c'est le temps de toute régénération de l'Église. On peut dire, dans un langage peut-être plus proche encore de celui de l'Écriture, que c'est le temps de la mission propre du Saint-Esprit. Que ce temps soit un temps lourd de signification aux yeux de Dieu. Il me semble que c'est la présentation de Jean 14 à 16 qui nous le montre bien. Jésus nous dit qu'il est avantageux qu'il travaille, que son départ, retour auprès du Père, est nécessaire pour qu'il nous envoie l'autre paraclétos, l'autre avocat, l'autre aide et témoin, c'est-à-dire l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui nous rappellera tout ce qu'il a dit, nous permettra précisément de l'assimiler. Le temps qui se déroule après la première venue de Jésus-Christ, quand il retourne auprès du Père, est le temps du Saint-Esprit. Le temps de la mission propre et particulière de l'esprit de vérité. Alors, ne le considérons pas comme une espèce d'intervalle vide. Il ne se passe vraiment rien entre Pâques et puis Pâques. Il se passe quelque chose de Saint-Esprit, là pour ça. Cette façon de dessiner l'histoire est très significative. Je signale d'ailleurs au passage que c'est un démenti aussi à l'idée des trois âges que Joachim de Flore, on a l'occasion d'en reparler, mais je le dis dès maintenant, que Joachim de Flore a lancé au début du XIIIe siècle, du XIIIe siècle de notre ère, et qui revient de nos jours même de temps en temps. L'idée que le temps des apôtres, de l'Église, que nous allons étudier, c'est le temps, c'est l'âge du Fils. L'Ancien Testament aurait été l'âge du Père, puis il y aurait eu l'âge du Fils, et que l'âge de l'Esprit est un âge encore à venir, âge de révolution, où les dogmes et les institutions sont abattues, etc. C'était un ferment de l'esprit révolutionnaire, que cette idée de trois âges avec l'âge de l'esprit comme l'âge succédant à l'âge de l'Église, à l'âge de la doctrine apostolique avec son autorité. Mais c'est tout à fait contraire à la perspective biblique, pour laquelle l'âge des apôtres, si vous voulez, c'est l'âge de l'esprit. L'esprit exerce son ministère propre à partir de la Pentecôte et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je dis aussi croissance du blé et de l'ivraie, bien sûr, vous reconnaissez là une allusion à la parabole de Jésus dans Matthieu 13. L'intérêt de cette parabole pour mon propos, c'est qu'elle introduit deux idées que les autres expressions n'ont pas peut-être clairement appliquées. L'idée d'une croissance, l'aspect cumulatif dont j'ai parlé. Le blé va croître tout au long de cet âge qui se situe entre les grands amphores des deux venues de Jésus-Christ. Et puis deuxième élément, croissance du blé et de l'ivraie. L'ennemi avec ça. Ça, nous n'avons pas, dans ce que j'ai dit jusqu'à présent, parlé du tout. En même temps qu'il y a une appropriation croissante du donné, du don, de la révélation, c'est pas pour toutes, il y a aussi activité de l'adversaire qui s'efforce de dévoyer et qui réussit souvent, qui sème la zizanie. Que le mot ivraie, c'est le mot zizania. Dans l'original, nous avons fait zizanie, sème. La zizanie, la mauvaise herbe qui ressemble au blé, tant qu'il est en herbe, et qui l'étouffe, qui tente à l'étouffer. L'adversaire multiplie les erreurs et les mensonges. Je crois que le sème des antichrists se loge à cet endroit dans les perspectives bibliques, dans cette phase dernière de l'histoire de l'univers, c'est la dernière heure depuis le temps des apôtres, c'est la dernière grande phase, même si ça dure presque 2000 ans. Dans cette dernière heure, la contre-attaque de l'adversaire qui suscite l'ivraie à l'imitation du Simon Marin, c'est de susciter des antichrists. Des antichrists qui revêtent d'un vernis d'apparence chrétienne le vieux fond païen qu'ils essaient de revigorer. Ces antichrists devront être en quelque sorte accomplis dans une figure suprême d'un antichrist avec majuscule. Croissance de l'ivraie en même temps que du bon grain. Et bien sûr, on parle beaucoup de l'ivraie quand on survole l'histoire des dogmes. On pourrait dire qu'avant la discipline de l'histoire de la théologie, dont j'ai dit que c'est au XVIe siècle vraiment qu'elle a commencé à se constituer, qu'avant donc que cette discipline commence à se constituer, il y avait eu les catalogues d'hérésies, les histoires recensant les hérésies dès les premiers siècles, pour préfigurer le genre, pour l'annoncer en quelque sorte à certains égards. Ces vérités me semblent importantes à souligner pour les chrétiens évangéliques que nous sommes, car nous avons eu tendance, avouons-le, à traiter ce temps comme un temps plutôt mort et sans signification, à traverser le plus vite possible pour aller au Nouveau Testament, et c'est tout. Je crois que nous avons prêté le flanc à la critique d'un bon gars, sur laquelle nous n'avons pas vu qu'il y a là l'agit du donné. Nous avons tellement eu souci du donné, du don, je ne ferai pas la déposition, que nous avons oublié qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant pendant les 18 ou 19 siècles intercalaires. Alors, pour les protestants en général, évidemment, le XVIe siècle a retenu une certaine attention. Et le XVIe siècle, avec les réformateurs, a servi de relais dans le pont que l'on a fait pour rejoindre le Nouveau Testament. Souvent, on a sauté d'abord sur le XVIe, et puis au premier. Mais ce sont même les siècles du Moyen-Âge qui sont porteurs de signification pour nous, qui sont intéressants pour notre réflexion sur la foi. Et je crois qu'on peut plaider que la réforme est autant un fruit du Moyen-Âge qu'une rupture avec lui et un retour à la vérité originelle des documents du Nouveau Testament. Je dis autant. Je ne nie pas qu'il y ait cette rupture et de retour, mais Luther serait incompréhensible sans le devenir de la théologie scolastique que dans les siècles précédés, par exemple. Il y a aussi cet aspect-là. Donc, j'espère vous convaincre, la théologie historique, nous avons de nous engager, même si nous n'avons pas le temps de le faire très en détail, c'est un coup d'œil que nous voulons essayer d'en maintenir. Cela constitue pour nous une vocation du fait des caractères mêmes de la foi qui nous a été transmise. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir, vous êtes très sage, vous n'avez pas eu de questions jusqu'à maintenant, après ce que je viens d'exposer, ce titre pourquoi. Oui,
parce que M. Moreno.
Oui, je crois que l'idée de croissance, l'effort cumulatif, de solidarité des générations, signifie réellement une maturation de la foi, de la saisie de tout ce qu'implique le don de vérité que nous a fait le Seigneur par sa parole. Cela dit, il faut se garder quand même d'un piège, je l'ai peut-être effleuré dans la prédication l'autre jour, le piège de nous croire meilleurs que nos pères. Et succomber aux schémas progressifs qui sont typiques de la pensée moderne, de telle sorte que nous ne réussirions plus à imaginer les anciens que comme quasiment des primitifs un peu demeurés. Comment peut-on penser comme ça aujourd'hui? Oui, c'était bon, c'était un peu sauvage, mais au Moyen-Âge, mais si nous pensons de cette façon, je crois que c'est très dangereux. Donc, l'idée d'une maturation, d'un progrès, je crois que nous avons à la retenir, effectivement, parce que nous profitons du travail de nos pères, nous pouvons venir plus vite qu'aux conclusions les plus claires. Nous avons des instruments d'analyse, de recherche, qui nous ont préparés, qui nous permettent donc de faire un travail en un sens meilleur que leur premier tâtonnement, en tout cas. Cela, je le crois. Mais n'oublions pas alors quel respect nous leur devons, quelle dette nous avons à leur égard, quelle reconnaissance. Et ça fait convenable envers eux. Oui, monsieur Lassila.
La tendance à la maturation n'exclut pas qu'il y ait une solution cette maturation à un certain moment donné. Alors, pour être très schématique, le lien de la transition des apôtres au chrétien suivant, on peut dire qu'il y a une perte énorme, peut-être déjà tous les ministères qui sont différents.
Alors là, il y a deux points, en fait, que je discernerai dans votre intervention. C'est d'abord le fait que la maturation peut s'accompagner de pertes, de réductions. Et oui, ça fait partie, je dirais, des effets, des manœuvres de l'adversaire. En progressant, on peut aussi négliger tel ou tel aspect. On avance d'un côté, on ne se rend pas compte qu'on recule d'un autre point du front. C'est là tout à fait exact. De même que des erreurs accompagnent la progression pour une saisie plus profonde de la vérité. Il y a aussi, on pourrait dire, des erreurs par appauvrissement. Non pas donc l'énoncé de thèse qu'on verra la parole de Dieu, mais une espèce d'oubli, d'éclipse de choses qui sont importantes. Ça, effectivement, ça peut se produire parce que ce progrès cumulatif n'est quand même pas linéaire, qui a de drôles de design. Ce serait linéaire si c'était une nécessité immanente, une logique interne qui faisait tirer la conséquence des prémices, mais ce n'est pas le cas. C'est un dessin librement conçu par Dieu qui conduit toute cette histoire, mais nous ne savons pas pourquoi dans sa sagesse il a permis tous les méandres, et il y a des méandres. Et nous ne pouvons pas donc dire automatiquement une vue qui a été énoncée, présentée après, est meilleure qu'une vue qui est présentée avant. Grosso modo, il y a un progrès, une maturation, et en particulier grâce aux instruments qui sont à disposition, mais il y a aussi donc des pertes déplorables que l'on peut enregistrer pendant assez longue période. Dans ces zigzags. C'est le premier élément que je retiens dans votre intervention. Le deuxième concerne la transition entre les apôtres et la génération qui a suivi tout de suite après. Alors là, ça me semble être beaucoup plus qu'une illustration de cette règle sur les pertes qui accompagnent le mouvement, parce que ce mouvement n'est pas linéaire. Là, il me semble que c'est la transition entre le don et puis la tentative d'appropriation de ce don. Les apôtres bénéficient d'une aide surnaturelle tout à fait spéciale du Seigneur. Ils sont plénièrement inspirés. Il leur est donné d'énoncer la parole de Dieu avec une plénitude et une plénitude de sagesse qui est tout à fait miraculeuse. Et à la génération d'après, il ne s'agit plus que de braves chrétiens comme nous. Il y a des ministères aussi, il y a le Saint-Esprit qui est votre absent, c'est sûr, mais ce n'est plus ce miracle de l'inspiration plénière. Et alors, eux, ils n'ont pas encore d'instrument, ce sont les tout premiers, ils ont ce trésor magnifique, ils commencent à l'explorer, à saisir ce qu'il veut dire, ici ou là, à riposter à des erreurs, et ça commence de manière assez maladroite, il faut bien le dire, oui. Là, il y a une perte qui est considérable. Et je considère personnellement que c'est un témoignage dans l'histoire que nous avons d'avoir qui est assez éclatant à l'origine surnaturelle du Nouveau Testament. Ce contraste entre les apôtres et puis ceux qu'on appelle les pères apostoliques, la génération d'après, ils ne sont justement plus apôtres. Ceux qui viennent immédiatement après, ce contraste-là est saisissant et me semble attester que Dieu avait, dans la constitution du Nouveau Testament, pris une part tout à fait unique par inspiration miraculeuse. Et il y a une analogie qui me paraît intéressante à ce propos, c'est une analogie tirée de l'histoire d'Israël. Alors je vous la mentionne au passage parce qu'elle me paraît aussi digne de remarque. Je retrouve à peu près le même schéma dans l'histoire d'Israël entre Moïse et les juges. Moïse